Bienvenue dans Questions de recherche, questions d'actualité, le podcast de l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Dans ce deuxième épisode de notre série thématique sur la santé mentale, nous allons revenir sur l'un des sujets brièvement abordés lors de notre premier podcast, à savoir le cloisonnement de l'offre de santé mentale et de soins somatiques, et les conséquences que cela peut avoir pour les personnes concernées, des thématiques qui ont été explorées à l'IRDES par Magali Coldefy, chercheuse en géographie, et Coralie Gandré, chercheuse en santé publique, toutes deux spécialisées dans les services et politiques de santé mentale à l'IRDES, et que nous avons le plaisir de retrouver. En 2018, vous avez publié la première recherche réellement exhaustive sur la mortalité des personnes vivant avec un trouble psychique dans le contexte français, et votre recherche a montré une espérance de vie fortement réduite par rapport à la population générale. En partant de ce constat édifiant, nous allons donc chercher à comprendre le rôle joué par le système de santé en s'appuyant sur les différents travaux que vous avez menés récemment à l'IRDES. Magali, pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur la surmortalité des personnes vivant avec un trouble psychique ?
Alors, le constat de la surmortalité des personnes vivant avec un trouble psychique, il a été fait au niveau international dès les années 70. Cependant, en France, jusqu'à 2018, en fait, on a été limité pour objectiver cette surmortalité du fait des données disponibles. Et c'est seulement récemment que l'appariement des données des causes de décès et des données de consommation de soins de l'assurance maladie a permis de retracer le parcours des personnes et de connaître leur cause de décès, et ainsi d'objectiver cette surmortalité des personnes vivant avec les troubles psychiques.
Et quels sont les principaux résultats de cette étude ?
Eh bien, comme à l'international, cette étude elle a pu montrer un écart d'espérance de vie des personnes vivant avec un trouble psychique qui est majeur. Il est de 16 ans pour les hommes et de 13 ans pour les femmes par rapport à la population générale. Ça s'explique par différents aspects, notamment une mortalité prématurée, c'est la mortalité qui advient avant 65 ans, qui est 4 fois supérieure à celle de la population générale. Ça s'explique en partie par un risque de suicide qui est beaucoup plus élevé pour les personnes vivant avec un trouble psychique. Et cette surmortalité prématurée, elle est particulièrement marquée pour les personnes vivant avec les troubles les plus sévères, notamment les troubles psychotiques, bipolaires ou des troubles liés aux problèmes d'addiction. L'autre résultat important de cette étude est que les principales causes de décès des personnes vivant avec des troubles psychiques sont les cancers et les maladies cardiovasculaires, tout comme dans la population générale. Sauf que les personnes vivant avec un trouble psychique en décèdent plus tôt.
Du coup, comment expliquez-vous ce phénomène, Coralie ?
Alors déjà, il faut bien comprendre que c'est multifactoriel. Alors tout d'abord, il y a des facteurs cliniques. Je pense par exemple aux effets secondaires des médicaments psychotropes au long cours. Il y a aussi des comportements défavorables à la santé chez les personnes avec un trouble psychique. Par exemple, une prévalence du tabagisme qui est particulièrement élevée dans cette population. Mais c'est souvent les facteurs qu'on a tendance à mettre en avant et c'est loin d'être les seuls facteurs. Il y a aussi des facteurs socio-économiques, donc notamment la précarité et l'isolement social qui sont plus fréquents chez les personnes avec des troubles psychiques, notamment du fait des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Et c'est des facteurs qui en eux-mêmes, en eux seuls, ont des conséquences sur la santé, comme par exemple de pouvoir conduire à un retard de recours aux soins. Et puis, il y a aussi des facteurs liés aux professionnels de santé, comme le fait d'attribuer toute plainte somatique d'une personne avec un trouble psychique au trouble psychique lui-même et non à un véritable problème de santé physique. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu dans la littérature internationale. C'est le concept de diagnostic overshadowing. Mais bien sûr, ce n'est pas forcément conscient et volontaire chez les soignants. C'est d'ailleurs généralement involontaire. Et puis, il y a aussi des facteurs liés au système de santé dans son ensemble, dont le fait que les soins de santé mentale et les soins de santé physique sont financés et délivrés séparément. Ça, c'est une constante dans à peu près tous les pays du monde, avec un cloisonnement de l'offre qui, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, ne va pas favoriser la continuité et l'intégration des différents types de prise en charge.
Vous avez mentionné des obstacles liés au système de santé. Comment ça se traduit dans les parcours de soins, Magali ?
Alors, nos travaux ont pu montrer qu'il y avait des obstacles dès l'accès aux soins primaires de routine. Par exemple, on a montré qu'à caractéristiques démographiques, socio-économiques et cliniques équivalentes, les personnes qui avaient un trouble psychique bénéficiaient de moins de soins de prévention en termes de vaccination, dépistage des cancers. C'est aussi des personnes qui avaient plus fréquemment des hospitalisations évitables. Les hospitalisations évitables, c'est des hospitalisations qui auraient pu être évitées par une meilleure prise en charge en amont. Et enfin, les personnes avec des troubles psychiques ont également un moindre accès aux spécialistes médicaux, tels que les dentistes, gynéco et ophtalmo. Quand on interroge les gens sur le terrain, notamment les professionnels de santé, on se rend compte que les équipes psychiatriques signalent des difficultés pour trouver un médecin traitant pour leurs patients. Et à l'inverse, les médecins généralistes, eux, se sentent démunis pour suivre de façon adaptée cette population spécifique.
Et d'autres moments des parcours de soins sont-ils également concernés ?
Alors malheureusement, oui. On a conduit un autre travail à l'IRDES, cette fois sur les parcours de soins pour cancer des personnes avec un trouble psychique. Et ce qu'on observe, c'est vraiment une qualité non optimale de ces parcours de soins en comparaison à des témoins qui, eux, n'ont pas de troubles psychiques. Et c'est des choses qu'on retrouve à toutes les étapes des parcours de soins. Donc on voit chez les personnes avec des troubles psychiques un moindre recours aux examens diagnostiques recommandés, mais aussi des délais plus longs avant la mise en place des traitements qui sont plus invasifs. Mais c'est vrai que par contre, ils ont accès à une moindre combinaison de traitements et ils ont aussi moins de suivi post-traitement. Donc en fait, toutes ces différences, hein, ça représente des pertes de chances pour les personnes concernées qui se situent vraiment à toutes les étapes des parcours.
Et justement, est-ce que ces problématiques sont bien identifiées dans le débat public ?
Alors, j'ai envie de dire qu'à l'étranger, oui, même si c'est des constats qui ont quand même tendance à persister. Je pense notamment au contexte anglo-saxon, hein, où ils n'hésitent pas à qualifier la surmortalité des personnes avec un trouble psychique de scandale, ou encore d'une des inégalités de santé les plus significatives et les moins évoquées, ou même de discrimination mortelle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette surmortalité, elle commence aussi à être considérée parmi les principaux indicateurs de qualité des soins dans les comparaisons internationales des systèmes de santé. Et je pense notamment à celle de l'OCDE, qui mobilise un indicateur relatif à la surmortalité des personnes qui vivent avec une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Mais par contre, je dois dire qu'en France, cette approche, elle est restée plus timide. Alors cette surmortalité, elle est quand même reconnue comme un problème de santé publique, mais seulement depuis une dizaine d'années. Elle a été mentionnée pour la première fois dans le plan national psychiatrie et santé mentale 2011-2015, mais les réponses qui ont été apportées depuis n'ont pas forcément été à la hauteur des enjeux.
À votre avis, que faut-il faire pour en finir avec ces phénomènes persistants ?
Alors pour moi, il faudrait véritablement mettre en place une approche globale de la santé des personnes qui ont un trouble psychique. On sait que c'est une population qui a des facteurs de risque spécifiques et il est nécessaire que chaque personne prise en charge en psychiatrie ait accès à un bilan psychique, somatique et social qui soit systématique dès le début de la prise en charge et l'annonce du diagnostic. Et que ce bilan et ce diagnostic impliquent la personne concernée et son entourage. Afin que finalement les actions qui soient préconisées en termes d'éducation de la santé ou de prévention des troubles soient véritablement adaptées à la personne. D'un point de vue plus organisationnel, on a déjà parlé de l'amélioration de la coordination et du partenariat entre médecins généralistes, somaticiens et psychiatrie. Sur le terrain, malgré de nombreux rapports, ça avance doucement. J'avais pas mal d'espoir sur le développement au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles avec la colocalisation de médecins généralistes, de psychiatres et de professionnels de plusieurs disciplines. Mais il reste encore pas mal de progrès à faire pour vraiment parler de soins intégrés en santé mentale.
Et en complément de ce que vient de dire Magali, il y a aussi un mouvement international en faveur de Reverse Integrated Care, donc c'est les soins intégrés inversés. En fait, c'est partir du postulat que pour les personnes avec un trouble psychique sévère, les soins spécialisés en santé mentale, c'est souvent leur premier, voire même parfois leur seul point d'entrée dans le système de santé. Et donc, ça pourrait être le bon endroit pour aborder la question de leur santé somatique. Ce modèle, c'est sûrement aux États-Unis qu'il est le plus développé dans le cadre de ce qu'on appelle les Medicaid Behaviors Health Home, qui permettent la coordination ou la délivrance des soins primaires au sein de structures de soins ambulatoires spécialisées en santé mentale. Alors très concrètement, hein, ça se fait via un infirmier de coordination salarié de ces structures qui va travailler en partenariat avec un professionnel de soins primaires autour de certaines missions prédéfinies, donc par exemple de promotion de la santé, de bilan de santé, d'orientation vers des spécialistes. Et aux États-Unis, il y a des impacts positifs hein, de ce type de modèle qui ont été montrés chez les personnes avec un trouble psychique. Je pense par exemple en termes de recours aux soins primaires, de dépistage et aussi de suivi des principales pathologies somatiques et de leurs facteurs de risque.
Et selon vous, ce modèle peut-il être intéressant pour la France ?
Alors oui, à mon sens, ça peut être tout à fait intéressant en France où on a des centres médico-psychologiques, hein, ces fameux CMP, nos structures de santé mentale ambulatoires publiques qui ont un maillage sur tout le territoire, donc ça pourrait être un bon lieu de mise en œuvre. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quand même des freins à la mise en œuvre du type de modèle dont on vient de parler qui ont été montrés en vie réelle. Je pense par exemple à des modes de financement inadaptés aux enjeux de coordination, des modes de financement des professionnels de santé, mais aussi des dotations personnelles insuffisantes au sein des structures spécialisées en santé mentale, hein, des problèmes qu'on rencontre aussi en France. Et c'est vraiment des freins qui devraient être anticipés si on allait vers ce type de modèle dans notre pays. Mais il faut savoir qu'il y a quand même déjà des initiatives inspirantes dans certains CMP, comme des modèles d'exercice partagés avec des centres de santé généralistes qui partagent des locaux avec certains CMP et qui vont s'engager à prendre en charge la santé somatique des patients du CMP. Donc c'est vraiment des initiatives tout à fait intéressantes, mais qui demeurent à évaluer en vue d'une éventuelle généralisation. Mais en tout cas, je dirais que pour conclure, hein, cette surmortalité dont on parle depuis le début du podcast, elle doit vraiment plus être considérée comme un phénomène inéluctable. C'est des constats qui durent depuis trop longtemps et il y a quand même des solutions possibles pour réduire l'ampleur du problème.
Merci beaucoup à toutes les deux pour ces éclairages. Nous vous invitons à écouter également les autres podcasts de notre série intitulée « La santé mentale, grande cause nationale 2025, quel défi pour le système de santé ?» Podcast de l'IRDES numéro 5, deuxième épisode, enregistré en janvier 2025, propos recueillis par Anna Marek, réalisation Aude Sirvin.